Décryptage, Anne Cantner.
C'est officiel, la Turquie peut désormais envoyer des troupes en Libye. Le Parlement a approuvé cet après-midi le projet du président Erdogan. Un mandat d'un an pour soutenir le gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj face aux troupes du maréchal Haftar. C'est une étape supplémentaire dans l'implication de puissances étrangères en Libye, dans le bras de fer international qui se joue dans ce pays. Que cherche vraiment la Turquie en s'impliquant davantage dans le conflit libyen? C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Nora Seni.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut français de géopolitique et administratrice du site observatoireturquie.fr. Vous avez aussi dirigé l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. En face de vous, Jalel Harchaoui, chercheur à l'Institut des relations internationales Klingendael aux États-Unis, aux Pays-Bas. Vous avez notamment écrit « La politique libyenne de la France et ses antécédents historiques » qui est paru le mois dernier dans la revue internationale et stratégique. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. C'est donc une étape supplémentaire dans l'affrontement à distance que se livrent un certain nombre de puissances étrangères en Libye. Une lutte d'influence dans laquelle on retrouve la Turquie, le Qatar, la Russie, les Émirats arabes unis ou encore de manière plus distante la France et l'Égypte. Chacun de ces pays a pris parti pour un camp, celui du gouvernement d'Union nationale qui est conduit par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale, ou bien celui du puissant maréchal Haftar. Le camp soutenu par la Turquie, c'est celui du gouvernement qui est installé à Tripoli et la décision d'intervenir militairement est motivée officiellement par la menace à laquelle il est confronté. J'aimerais qu'on commence par faire peut-être un petit point sur la situation sur le terrain, Jalel Harchaoui. Que contrôle aujourd'hui réellement ce gouvernement libyen ?
Il contrôle un peu plus qu'avant l'offensive du 4 avril. C'est-à-dire que quand
l'offensive donc lancée par le maréchal Haftar.
Le maréchal Haftar, qui était pendant plusieurs années cantonné à l'est de la Libye, il a décidé d'envoyer comme ça ses troupes et de mener une incursion vers la capitale libyenne. Et il espérait un chemin un peu plus facile. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de groupes armés qui n'étaient pas du tout contrôlés par ce gouvernement d'entente nationale, finalement, ont fait preuve de solidarité avec le gouvernement attaqué. Et le maréchal s'est retrouvé face à un mur de résistance, à une espèce de degré de solidarité qui n'était pas du tout escompté ou anticipé. Et donc, paradoxalement, le gouvernement d'entente nationale, entre guillemets, d'une manière tout à fait nominale et notionnelle, contrôle pas mal de territoires dans la zone de Tripoli et de Misrata. Il y a aussi l'ouest extrême, la zone amazigh de la Libye. Et sur une carte, en tout cas, l'immense majorité est sous l'égide du maréchal Haftar.
Le maréchal Haftar qui a donc l'intention de reprendre Tripoli, une intention affichée. Vous le disiez, cette offensive, elle a commencé au mois d'avril. On le présente comme un homme extrêmement puissant. Finalement, on a l'impression que ça piétine un peu, que ça n'est pas si facile que ça de prendre le contrôle de la capitale.
Oui, ça c'est le paradoxe qui divise sur ce personnage. Il a toujours vendu cet argument comme quoi il était à la tête d'une véritable armée. Et c'est toute la question, puisque c'est quelqu'un qui, depuis la première minute de sa campagne militaire, bénéficie d'une aide internationale, en tout cas transnationale, extrêmement importante. Donc c'est un point d'interrogation. Et le jour J, on a découvert finalement une armée moins disciplinée et beaucoup moins professionnelle, moins cohésive, ce qui a fait qu'il a reçu encore plus d'aide étrangère à ce moment-là. Les fameux mercenaires russes, ce n'est que la dernière couche, la couche la plus récente de son côté.
Des mercenaires russes dont beaucoup de personnes parlent, à commencer par l'envoyé spécial des Nations Unies. Dans ce contexte, un certain nombre de pays, notamment la Russie, ont décidé de soutenir davantage un camp ou l'autre. La Turquie donc a choisi d'appuyer le gouvernement national en Libye. Est-ce qu'on sait déjà qui va intervenir, Nora Seni ? Est-ce que ce sont des troupes d'élite, des soldats turcs ?
Non, on ne sait pas, mais on sait déjà qu'il y a quelque chose comme 300 supplétifs turcs, arabes.
Puisque vous mentionnez ces supplétifs arabes, syriens, d'anciens révolutionnaires syriens, j'aimerais qu'on écoute à ce sujet le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui s'est exprimé justement sur ce point-là.
Des bureaux d'inscription sont ouverts pour les combattants désireux d'aller combattre en Libye. Ils sont ouverts dans les zones sous occupation turque, au nord de la Syrie, précisément à Afrin. À présent, on est sûr que des combattants appartenant à ce qu'on appelle l'armée nationale, ces forces fidèles à la Turquie, ont été transférés en Libye. Il y a au moins 500 combattants qui sont déjà en Libye. Des centaines d'autres se préparent à s'y rendre. Ils combattent dans le cadre des sociétés de sécurité privée turques. La Turquie ne va pas envoyer son armée tant qu'elle trouvera des mercenaires prêts à faire le travail en Libye.
Voilà, donc on vient d'entendre le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abderrahman. Plusieurs centaines de ces fameux supplétifs syriens se trouveraient déjà en Libye ?
Se trouveraient déjà en Libye et il y a un millier de ce genre de personnages qui sont en voie de se retrouver en Libye. Le journaliste Fehim Tashtekin, qui est spécialiste de la région frontalière syrienne-Turquie, parle de ce trafic comme d'un corridor djihadiste. Il précise qu'en fait, il y a une certaine habitude de ce corridor, parce que au début de la crise syrienne, ça fonctionnait dans l'autre sens, c'est-à-dire que des Libyens venaient se battre en Syrie, et ces mêmes Libyens maintenant, enfin, ce trafic fonctionne dans le sens inverse, et on peut donc comptabiliser à 1 000-1 500. On va toujours dire supplétifs qui viennent combattre au nom de la Turquie en Libye. Et c'est doublement gagnant pour la Turquie, qui n'aura pas à répondre devant son opinion publique des pertes enregistrées parmi cette population-là.
Jalal Herchaoui, vous pensez aussi que la Turquie va mettre ses mercenaires en quelque sorte en première ligne ?
Non, c'est déjà fait. Il y en a déjà plusieurs centaines qui sont dans la zone de Tripoli et qui sont envoyés au front. On a tendance d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les combattants libyens n'ont jamais demandé ces mercenaires de nationalité syrienne. Ce qui était attendu véritablement de la part de la Turquie, c'était plus de des armes, des munitions, des systèmes de brouillage pour abattre les drones émiratis, peut-être des missiles portatifs pour également essayer d'abattre les différents engins émiratis et autres qui les attaquent. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a encore une autre composante de cette intervention militaire turque, c'est la composante officielle. Donc il y a une composante clandestine, celle dont on vient de parler, et il y en a une autre qui vient s'ajouter, peut-être, dans les semaines qui viennent, et ça c'est le président Erdogan qui va décider de manière incrémentale d'augmenter la taille de l'intervention qu'il pourra mettre en œuvre, et qui est tout à fait au vu et au su de tous, ce serait des troupes gouvernementales. Alors, certains parlent de milliers, d'autres de quelques centaines, on ne sait pas encore, mais elle va sans doute exister puisque le Parlement l'a approuvée aujourd'hui.
Mais c'est très problématique parce que c'est quand même à 2000 kilomètres de la Turquie, et la Turquie n'a pas trouvé l'appui logistique qu'elle a cherché auprès de la Tunisie, ni auprès de l'Algérie, qui lui permette d'avancer dans ce projet.
Oui, parce qu'on a entendu effectivement le président Erdogan essayer de mobiliser ces deux pays voisins. On a entendu aussi il y a quelques instants, dans ce que disait le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'évocation d'un certain nombre de sociétés privées qui emploieraient en fait ces personnes-là. Il parle notamment du groupe Sadat. Est-ce que vous avez des informations sur ce point-là, Noor Hassani ?
Très peu. Il y a, c'est un groupe connu qui fait face à Erdogan en parle comme d'une monnaie de la pièce de Wagner.
Wagner, qui est une entreprise russe.
Exactement. Donc ça lui donne comme une autorisation d'avoir le même genre de force obscure, mercenaire, à envoyer pour ces besognes qui ne sont pas toujours, sans en rendre compte, aux Turcs.
Oui, c'est vrai que sur ce point-là, le recours à des sociétés privées, en fait, le président Erdogan n'a pas vraiment commenté, il n'a rien confirmé, mais il a rappelé à plusieurs reprises qu'en face, le maréchal Haftar bénéficiait bien du soutien de mercenaires russes. Donc, effectivement, ça, On a l'impression que ça accrédite un peu en quelque sorte cette thèse du recours à des sociétés privées. C'est une nouvelle étape, cette implication turque, mais quand même il faut rappeler que, comme beaucoup d'autres pays, Ankara est engagée depuis déjà plusieurs mois aux côtés du gouvernement de Fayez al-Sarraj et elle a fourni notamment des drones, malgré l'embargo sur les armes qui est en vigueur en Libye, Jalel Harchaoui.
Oui, il y a eu une intervention militaire turque tout à fait clandestine qui a commencé au mois de mai 2019 et qui a pris son ampleur. Il y a eu jusqu'à 20 drones de combat qui ont été introduits en Libye en violation de l'embargo contre les armes, avec plusieurs douzaines d'officiers turcs pour les opérer, pour les piloter. Cette intervention-là a fait une différence, c'est-à-dire qu'elle a permis au gouvernement d'entente nationale de survivre. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour tout un tas de raisons, cette intervention clandestine turque s'est arrêtée au mois d'octobre. Et après, il y a eu la fameuse signature des deux accords très controversés, l'accord maritime et l'accord sécuritaire du 27 novembre. Et c'est seulement à la suite de ces deux signatures que la Turquie a redémarré son opération clandestine en Libye.
Puisque vous mentionnez ces deux accords, effectivement, on a l'impression que quelque chose s'est enclenché ou s'est modifié à ce moment-là. Deux accords donc signés avec le chef du gouvernement en Libye, Fayez al-Sarraj. Le premier porte sur des questions sécuritaires et le second sur la délimitation maritime. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement, Nora Seni ?
Il s'agit de rendre possible pour la Turquie de s'impliquer dans les enjeux énergétiques de l'Est Méditerranée. Ces dernières décennies, on a découvert des gisements faramineux dans les eaux territoriales d'Israël, de l'Égypte, de la Libye, de Chypre. Et la Turquie est complètement en dehors, exclue de ces forages et de ces enjeux. Donc c'est une façon pour la Turquie, tout à fait illégitime d'ailleurs du point de vue juridique de la juridiction internationale, de réclamer son droit sur des territoires calculés de façon assez qui ne correspondent absolument pas à la juridiction en vigueur des droits territoriaux, des droits sur la mer pour des forages.
Alors, d'ailleurs, on sent bien qu'il y a des enjeux qui sont très importants à ce niveau-là. On a appris d'ailleurs qu'un accord était signé donc sur le gazoduc Ismet. Donc cet accord, il comprend la Grèce, Chypre et Israël. C'est un projet qui est évidemment très important pour ces pays-là, mais est-ce que c'est aussi un moyen de faire bloc face aux ambitions de la Turquie ?
Pas du tout. Je ne crois pas qu'il s'agisse de faire bloc. Israël a reconnu aujourd'hui même le fait qu'il n'y aura pas de possibilité de continuer des forages et d'exploiter les richesses en gaz de la Méditerranée sans une participation de la Turquie. Donc ils sont prêts à jouer une partie de realpolitik avec les Turcs pour avoir la paix, si vous voulez. Voilà. Donc ça, je ne pense pas qu'il s'agisse de faire face à la Turquie, de faire front contre la Turquie dans cette affaire-là. Je crois qu'il y a ce qui commande, ce sont des intérêts économiques extrêmement importants. La Turquie a quand même sur son territoire le passage d'un autre gazoduc, le TANAP, qui amène les richesses du côté Azerbaïdjan, mer Caspienne, vers l'Europe. Et là, je veux dire, il n'y a pas de contestation possible. Et là, d'ailleurs, notre accord avec la Russie pour le Turkish Stream, qui amène du gaz russe à travers la mer Noire vers l'Europe.
Jalel Harchaoui, est-ce que ça vous avait surpris la signature de ces deux accords au même moment ? Un côté sécuritaire et puis cet accord-là sur le côté maritime.
Non, parce que les Turcs demandent la signature de cet accord depuis octobre 2018. Donc c'était avant le sommet de Palerme, par exemple. Et ce qui était très intéressant, c'est que les Libyens savaient très bien que signer cet accord-là, c'était la garantie de se mettre à dos l'Union européenne, puisque la Grèce, Chypre et évidemment la France sont contre déjà ce genre de manigance. Et c'est parce qu'ils ont désespéré sur le plan militaire qu'ils ont décidé de commettre cet acte d'automutilation diplomatique. Et c'est exactement ce que la Turquie voulait. Donc on retrouve le côté réel politique extrêmement cynique et très malin, je dirais, des Turcs qui ont obtenu et ont réussi à extraire sa signature très problématique pour les Libyens. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que diplomatiquement, ils sont dans des ennuis plus importants du fait de cette signature-là. Mais ça ne va pas déranger la Turquie. La Turquie veut raviver toutes ces conversations, notamment relatives à la mer Égée avec la Grèce.
La Turquie, donc, qui consolide son influence. On a entendu cette semaine les présidents français et égyptiens critiquer cette intervention, puisque ça fait quelques jours qu'on en parle. Est-ce qu'ils ont des moyens de faire pression sur la Turquie pour la faire renoncer ?
Bon, tout d'abord, il faut dire que le bureau ovale, le président Donald Trump n'est pas alarmé.
Hostile.
Il n'est pas alarmé par ce que le président Erdogan est en train de faire dans l'ouest libyen.
Lui n'avait pas trop parlé. Il a réagi ce soir en mettant en garde contre toute interférence étrangère, ce qui paraît quand même.
Oui, c'était un message co-signé par les deux présidents. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de choc pour l'instant. Il n'y a pas d'outrance. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante pour comprendre un peu le désarroi des Européens. Parce que les Européens sont un peu pris en otage par rapport à l'accord sur le flux migratoire. Donc, ils sont un peu pris au piège.
Effectivement, c'est un instrument de pression pour la Turquie, cette jauge migratoire que la Turquie peut ouvrir ou non et qui lui permettrait d'imposer en fait ses conditions, Nora Seni.
Oui, là, on en est au-delà parce que de cet élément, elle en a fait usage. Dans tous les sens du terme, ce chantage a fonctionné extrêmement bien. Elle a d'ailleurs inversé le chantage en disant qu'elle dorénavant qu'elle laisserait libre les réfugiés pour partir en Europe. C'est ce qu'elle a commencé à faire, d'ailleurs, elle continue à faire en été. Mais sinon, l'Union européenne a toujours réagi avec un temps de retard vis-à-vis des chocs de ce qui a fait scandale pour elle au niveau de la Turquie. C'est toujours avec un train de retard, et toujours d'une certaine façon en se retrouvant pieds et mains liés devant une situation extrêmement difficile. Et ça continue, je veux dire, on s'embourbe dans cette histoire. On s'embourbe, je dirais, depuis presque 2007-2008, où on a commencé à dire que la Turquie n'avait pas vocation à être européenne un jour, à rejoindre l'Union européenne. Et ça a commencé là. C'est à ce moment-là que Erdogan la Turquie a pris une autre, a bifurqué vers les pays arabo-musulmans, a enjoint une stratégie de leadership. Et voilà. Et à chaque fois, l'Europe s'est trouvée devant un fait accompli et a d'une certaine façon félicité la Turquie parce qu'en croyant que en continuant le dialogue, en continuant à d'une certaine façon à flatter, on éviterait le problème. C'est ce qu'a fait Madame Merkel.
Ce qui ne fonctionne pas,
ce qu'a fait Madame Merkel en venant faire signer l'accord sur les réfugiés.
Et on voit bien qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tout ceci, en fait, ne montre pas l'impuissance de la communauté internationale, de l'Europe notamment, dans ce conflit libyen, Jalal Harchaoui?
Elle n'est pas innocente. Vous savez, les Européens sont choqués aujourd'hui par l'intervention militaire des Turcs. Quand l'intervention militaire beaucoup plus grande des Émiratis a commencé en avril, il y avait un silence ici en Europe et notamment à Paris. Il y a une amitié extrêmement étroite entre la France et les Émirats qui fait qu'on n'a pas le droit de parler de cette intervention militaire. Donc c'est un petit peu le retour de manivelle. Il y avait une incohérence qui était due à une complaisance extrême de la part des Européens qui aujourd'hui sont dépassés.
Effectivement, ça va être difficile de se positionner maintenant contre une intervention turque, alors que les précédentes sont passées soit inaperçues, soit en tout cas avec une sorte d'approbation silencieuse.
C'est exactement le pari d'Erdogan.
Il y aura encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Nora Seni, enseignante-chercheuse à l'Institut français de géopolitique et administratrice du site observatoireturquie.fr, et Jalel Harchaoui, chercheur à l'Institut des relations internationales Clingenden aux Pays-Bas. Décryptage réalisé ce soir par Hélène Avril, merci. Attachée de production Déborah Lepage et Patrick Adam à la rédaction en chef. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve lundi pour un nouveau décryptage. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon début d'année 2020.